France Inter.
Je peux goûter comme ça?
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Michel, alors, aujourd'hui, ce programme très coloré, qu'est-ce que ça va être?
La cuisson à l'anglaise d'un légume vert. La cuisson des haricots verts.
C'est très simple, il faut bien la saler l'eau. Il faut compter 20 grammes de sel par litre d'eau. Parce que lorsqu'ils seront cuits, les haricots verts, on les mettra à rafraîchir dans de l'eau froide. Et le légume reste vert. Par conséquent, ils se dessaleront. Il faut donc les sursaler un peu au départ. Hein?
Pour cuire un légume vert, il faut jamais qu'il soit couvert. Et à l'eau bouillante, il boue beaucoup. Pour voir s'ils sont cuits, vous trempez vos mains dans de l'eau froide, vous prenez un haricot vert dans l'eau bouillante, vous le goûtez, il est craquant, il est cuit.
J'aime pas les haricots verts.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster aujourd'hui plein feu sur le haricot vert, l'un des légumes préférés des Français. Ça tombe bien, nous sommes en pleine saison en ce moment et il nous fait des clins d'œil sur les étals frais ou en conserve du potager ou du Kenya, fondant ou al dente, en salade ou en accompagnement. On fait le tour de cette fine gousse avec nos deux invités. Un invité qui le cultive, c'est évidemment Xavier Mathias. Bonjour.
Bonjour à tous.
Ravi, Xavier, de vous retrouver à notre micro. Vous êtes notre pote du potager, maraîcher dans le village de Chédigny en Indre-et-Loire, formateur en permaculture, auteur de nombreux livres sur le potager, très actif sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur votre chaîne YouTube. Vous signez avec votre complice qui est avec nous en studio aujourd'hui, Guilain le Vilain. Des vidéos super instructives, pratiques, réjouissantes sur le potager. J'ai l'impression que vous éclatez vraiment à faire ça.
Ah oui, on s'amuse beaucoup. Ouais.
Et j'invite vraiment nos auditeurs et nos auditrices à s'abonner sur YouTube, votre chaîne qui compte déjà des dizaines de followers, à vous suivre également sur Instagram. C'est vraiment réjouissant quand on veut avoir les pieds dans la terre pour voir ce qui se passe au potager avec tous les bons conseils que vous prodiguez.
Ouais, le potager c'est simple. Et c'est simple, c'est un plaisir et ça se partage.
C'est simple, mais il faut quand même quelques explications et les vôtres sont particulièrement limpides. Vous allez aujourd'hui, Xavier, tout nous dire sur les haricots verts et on va voir avec vous qu'ils ne sont pas toujours verts justement, vu la couleur des haricots qu'il y a sous votre micro. Et puis une invitée pour cuisiner le haricot vert, c'est Amandine Chéniaud, bonjour.
Bonjour.
Chef et restauratrice très active, très inspirée aussi sur la scène parisienne. Vous vous apprêtez d'ailleurs, Amandine, à prendre la clé des champs, racontez-nous.
Tout à fait, dans quelques semaines maintenant, je vais ouvrir un nouveau restaurant à Réveillon, dans l'Orne, dans
avec un nom qui va plaire à Xavier Mathias.
Sauge.
Sauge.
Ah ouais.
Peut-être
ouais.
Bien votre herbe aromatique préférée, c'est ça?
J'aime beaucoup. Et puis, il y a cette idée d'une herbe un petit peu humble, un petit peu oubliée, que j'aime beaucoup et qu'on a parfois du mal à apprivoiser.
J'adore la note camphrée, résineuse de la sauge, très appréciée dans la cuisine italienne d'ailleurs. Hein.
Exactement. Puis, il y a les vertus aussi purifiantes. Il y a plein de mythologies autour de la sauge.
Bah, d'ailleurs, le nom latin de sauge, c'est salvia.
Voilà,
l'herbe qui sauve. Hein.
C'est elle qui sauve, effectivement.
Ouais. Très, très intéressant. La sauge, évidemment. Ça ouvre quand exactement, sauge?
Alors, on a ouvert les réservations, ça y est.
Oui.
On a un site internet depuis hier et on prévoit d'ouvrir le week-end du 5 octobre.
Une auberge de campagne. Ouais. On va s'y précipiter à Réveillon, à quelques kilomètres de Mortagne-au-Perche. Merci d'être avec nous.
Exactement.
Pour nous raconter le haricot vert de l'équeutage à la cuisson, en passant par l'assaisonnement, avec deux belles recettes à la clé.
Tout à fait. On va commencer avec une salade de haricots verts, amandes torréfiées, avec quelques petits morceaux de pêche, des herbes.
On s'en régale déjà.
Voilà, quelque chose d'assez facile. Et puis, deuxième recette.
Très étonnante.
Pour les
surprise.
Enfants.
On joue la surprise.
Allez,
vous allez voir, c'est super étonnant, le haricot vert comme vous l'avez jamais dégusté. Dans la bande dont on va déguster pour nous accompagner tout au long de l'émission, je demande Zazie Tavitian et Justine Knapp. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Zazie.
Alors moi, je suis allée cueillir des haricots.
Non, des haricots.
À pas dire haricots. Pas très loin de Paris. Et je vous en ai ramené, évidemment.
Avec plaisir. Merci Zazie. Merci d'avance. Justine.
Eh bien, on va parler vin inconscient et système digestif.
Très intéressant. Auditeurs et auditrices, pour vous abonner au podcast dont on va déguster ainsi qu'au podcast de toutes nos chroniques, ça se fait en un clic sur la nouvelle appli de Radio France. Et pour réagir dans notre émission en direct, rendez-vous sur franceinter.fr ou sur notre mail onvadéguster@radiofrance.com. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver toutes nos infos, les recettes d'Amandine Chéniaud, nos bons plans sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter. On va déguster avec François-Régis Gaudry.
Juste avant de causer haricots verts, un coup de cœur pour un produit mystère que j'aimerais vous faire déguster. Voilà, vous avez une petite fiole avec un élixir. Est-ce que vous avez déjà identifié quelque chose ? On commence avec la chef. Amandine Chéniaud.
Je passe en premier. Alors, moi, je suis hyper sensible au vinaigre.
Ah, vinaigre, c'est bravo. Bonne réponse, un point.
C'est des choses qui m'attaquent très fort. Donc, je prends avec beaucoup de parcimonie.
Vous y allez mollo.
Voilà.
Est-ce que vous identifiez un arôme, une trame, quelque chose ?
C'est très très fort pour moi. Je pense qu'il faut que je le dilue pour pouvoir le laisser un peu plus respirer et l'apprécier.
Xavier Mathias ?
Alors, moi je trouve que ça a une incroyable allure de frais rouge,
bravo.
Mais j'arrive pas à identifier précisément lequel, et je suis assez d'accord avec vous, effectivement.
Ça tamponne ?
Ça tape un
ah
peu,
ouais, ça
hein, quand même.
Oui, alors c'est le vinaigre, évidemment, quand on le déguste comme ça, j'ai envie de dire cru sans rien d'autre, hein. Mais il a une ampleur aromatique assez formidable, Zazie ?
Ah ouais, moi j'aime bien parce que c'est vraiment le kick d'acidité, ça réveille.
Ouais.
Et pareil, je dirais des trames de fruits rouges, mais j'arrive pas à déterminer...
Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce que je peux vous dire. Vous êtes sur la bonne voie, Justine ?
Eh bien, je dois dire que je le connais et je sais ce que c'est. Et j'en ai, pour tout vous dire, bu cet été. J'en mettais un fond dans un verre avec de l'eau gazeuse et des glaçons. Et c'était absolument délicieux.
Ça, c'est une belle chose à faire.
Mais du coup, j'en dis pas plus sur ce vinaigre que j'adore.
Vous êtes sûre de votre coup, Justine ?
Oui.
Ah, bon, alors, on va pas trop divulgâcher. C'est effectivement un vinaigre. Vous avez tous raison, je voulais rapporter de Bruxelles, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça.
Ah. Daphné de Kronbrugge produit des vinaigres vivants, c'est-à-dire artisanaux, bio, naturels, dans le centre de Bruxelles. C'est un vinaigre urbain qui est fabriqué à partir d'alcool belge en fermentation spontanée. L'histoire de Daphné m'a beaucoup touché, je l'ai rencontrée il y a quelques mois à Bruxelles. Cette jeune femme était, figurez-vous, analyste financière. On lui diagnostique en 2015 une maladie neurodégénérative au niveau des yeux qui pourrait la rendre potentiellement aveugle à terme. Ce fut un électrochoc pour changer de voie, arrêter d'être toute la journée devant des écrans d'ordinateur et devant des chiffres de finance et se convertir enfin dans un artisanat avec du sens et un artisanat qui sollicite d'autres sens. Et notamment d'autres sens que la vue. Après un séjour à Modène, à la découverte du savoir-faire exceptionnel autour de l'aceto balsamico, et à Banyuls, dans cette vinaigrerie célèbre.
La Guinelle.
La Guinelle, évidemment, qu'on connaît tous. On ne connaît pas tous, mais c'est effectivement une vinaigrerie artisanale exceptionnelle à Banyuls, au pied des Pyrénées. Eh bien, Daphné décide de se convertir dans le vinaigre en 2023, et aujourd'hui, quelques mois plus tard, à l'âge de 36 ans, ces vinaigres sont de véritables coups de maître qui déboule sur la scène culinaire avec vraiment une précision, un engagement très fort. Alors revenons justement au vinaigre que vous avez goûté, puisque vous avez décelé des notes de fruits rouges. Vous brûlez de savoir comment il est fait, j'imagine ?
Oui.
Eh bien, Daphné nous en parle.
Donc là, je mets la pipette. C'est le vinaigre de Creek, donc c'est toujours une base de bière avec des vraies griottes qui sont refermentées. Donc c'est un vinaigre qui est quand même pas mal de rondeur en bouche. Il y a le fruit qui est présent, mais qui reste élégant. La griotte, c'est une petite cerise amère, en fait. Donc on a des notes un peu de fruits rouges.
Le noyau aussi, un peu.
Le noyau en fin de bouche. Donc on peut avoir des notes aussi un peu d'amande. C'est un vinaigre qui se marie très très bien avec le gibier, par exemple, ou du canard. Ou si vous faites une frisée de lardon, vous déglacez votre poêle avec ce vinaigre-là. Ça va relever votre salade et ça va être un merveilleux fond de sauce.
Daphné, comment vont vos yeux ?
Alors, pour le moment, c'est stable. Vinaigrerie Sainte-Odile. Donc, Sainte-Odile, c'est la sainte patronne de l'Alsace, mais c'est aussi la sainte patronne des aveugles et des malvoyants. Elle a fait énormément de miracles. Et moi, je suis persuadée qu'en mettant l'accent sur d'autres sens, en l'occurrence l'odorat et le goût, voilà, que ma vue va se stabiliser. Comme je dis toujours, en fait, c'est la plus belle chose qui me soit jamais arrivée, parce que sinon, je serais restée derrière un ordinateur, attravée devant un Excel. Ça m'a permis d'être beaucoup plus alignée, en fait, avec moi-même et de faire vraiment ce que j'aime, travailler dans la nourriture, on va dire, dans une production alimentaire.
La vinaigrerie Sainte-Odile à Bruxelles de Daphné de Kronbrugge, que vous connaissez bien, du coup, Justine
oui.
Knapp.
Et oui, en fait, c'est elle qui m'a conseillé d'essayer de boire ce vinaigre. Et ça donne une boisson vraiment acidulée, rafraîchissante. Ça a presque des airs de kombucha en bouche. C'est très bon.
Donc, comment on fait ?
Eh bien, un petit fond comme un sirop, un petit fond dans le verre. Et puis, après, on rajoute de l'eau pétillante et puis de la glace, si on aime ça.
Et ça fait une très belle boisson désaltérante. Elle fait aussi des vinaigres avec des lambics de la célèbre maison Cantillon, évidemment, des vinaigres de cidre, des vinaigres d'hydromel, voilà. Et vous pouvez les commander sur son site internet. On vous a indiqué toutes les infos sur la page internet dont on va déguster. Merci à notre chroniqueur Antoine Gerbel de m'avoir mis sur la voie de cette productrice belge d'une grande exigence. Laurent Thomas est derrière la console avec Sofiane Aktib pour réaliser cette émission, Fabrice Rivaud pour la préparation et Djoub pour le choix des disques. On court sur le haricot vert juste après Manu Chao et Letty avec le nouveau titre « Tout est basse ». Bon appétit sur France Inter.
Vivir sin ti es vivir muriendo. Vivir así no lo recomiendo. Y así que así yo sigo insistiendo. Vivir sin ti es morir queriendo.
Cuando tú te vas, clavarme espinas, si ese dolor se te contamina, será mi voz que ya desafina, cantar pa' ti es mi droga ruina, vivir sin ti es clavarme espinas.
La mula m'apaise à peine, je reviendrai jamais, partout je vois ton sourire, je reviendrai jamais, je dois exaucer mes rêves, je reviendrai jamais, je chante ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais, souviens-toi de nous. Malgré le love, j'ai mis de la distance, une chanson, les larmes au cou. Malgré le love, j'ai mis de la distance.
Quand tu te vas, quand tu te vas.
Vivir sin ti es salir corriendo, a por tu sombra, la que yo me invento. Será que a ti te importa un pimiento, vivir sin ti como un casamiento.
Ce n'est pas qu'une question d'amour, tu le sais très bien. Je ferai tout pour te mettre à l'abri, tout ira bien. Je veux plus retourner dans le piège, non plus jamais. Donne-moi juste une lueur d'espoir.
Quoi que tu t'aimes,
je t'emmène. Moi j'ai fait de mon mieux pour te faciliter la vie. À toi de faire ton choix. La moula m'apaise à peine.
Je reviendrai jamais,
partout je vois ton sourire.
Je reviendrai jamais,
je dois exaucer mes.
Cuando tú te vas,
vivir sin ti es mi desedrina. Me pone más que la cocaína que te revienta por la letrina. Vivir sin ti es clavarme espina.
Cuando tú te vas,
on va déguster.
Et dire qu'il faut attendre encore 2 mois pour que nous entendions. Haricots verts et tendres haricots, voilà l'haricot vert. Comme c'est bien dit, tendre haricot. Vous savez que je les veux tout fins, ruisselants de vinaigrette. On ne dirait pas qu'on les mange, c'est frais comme une rosée.
Marcel Proust, s'émerveillant pour ce fin légume vert des marchés parisiens, comble selon lui du raffinement gastronomique. C'était un extrait du roman La Prisonnière, paru en 1923, lu par Amos Tiné, qu'on remercie d'ailleurs, un jeune étudiant du conservatoire de théâtre. Xavier Mathias, nous sommes au cœur de la saison du haricot vert. C'est incontestablement l'un des légumes préférés des Français, au point que notre pays en soit le 2e producteur au monde, juste derrière les États-Unis. Savez-vous d'ailleurs comment on dit haricot vert en anglais ?
Aucune idée.
French beans.
Ah oui.
French beans. Et pourtant, Xavier, le haricot vert a longtemps été un légume de luxe, réservé à une certaine élite urbaine.
Oui, carrément. De toute façon, on entend bien là dans les mots de Marcel Proust, quand même, qu'il y a un côté un petit peu élite. Pourquoi un côté élitiste ? Mais parce que les haricots, quand ils sont parvenus à maturité, ils sont riches en protéines, etc. Et c'est leur grain qu'on cherche. Par contre, quand on est un petit peu plus riche, qu'on a un petit peu moins faim, on peut effectivement se régaler de la jeune gousse. Alors après, il y a des variétés qui ont été sélectionnées à cet effet d'avoir des gousses sans fil, sans parchemin, etc. Donc, qui se prêtent à une récolte immature beaucoup plus facilement. Mais reconnaissons que ça convient à des sociétés qui ont déjà un certain niveau de vie. Donc, sinon, on mange des haricots secs.
Donc au départ, le haricot vert, c'est un haricot qui n'est pas arrivé à maturité pour produire ces haricots lingots qu'on connaît bien, que ce soit à Paimpol ou ailleurs, le haricot tarbet.
Voilà, et c'est pour ça que le haricot vert, d'un point de vue botanique, là j'entends pas culinaire, mais d'un point de vue botanique, est un fruit. Il est bien issu d'une fleur, il contient des graines, alors des graines qui sont à peine visibles à l'œil nu, pour nous qui les cueillons très très jeunes, mais on pourrait parfaitement les laisser un peu grossir, voire arriver à leur terme.
Si je vous suis, Xavier, croquer des haricots verts revient à commettre un infanticide.
Comme souvent avec les légumes, vous voyez, comme les malheureux petits pois, par exemple.
Petits pois, c'est le même comparatif avec les pois cassés qui arrivent à maturité et qui sont pour le coup une légumineuse très riche en protéines.
En protéines, voilà.
Mais au départ, le pois comme ça, immature, c'est le petit pois qui est devenu notre bonbon du potager, c'est ça ?
Voilà, c'est ça. Alors, avec des avantages nutritionnels, il ne faut pas leur dénier. Ce sont souvent des légumes qui sont riches en fibres, etc. Mais néanmoins, qui n'ont pas la valeur du légume parvenu à maturité.
Xavier Mathias, quand est-ce qu'on a pris cette habitude de consommer en France ces haricots verts, c'est-à-dire ces haricots immatures, sachant que le haricot, c'est un des apports des conquistadors. Il a fait le voyage depuis l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud
c'est ça.
Au XVe siècle.
Voilà, à la fin du XVe. La première fois qu'il est fait mention d'un haricot vert récolté immature, c'est Nicolas de Bonnefond. On est en 1657, donc on est clairement avec quelqu'un qui s'adresse à une classe aristocratique. On n'est pas du tout dans un aliment populaire, en fait. C'est vraiment, régalez-vous, cueillez-le très jeune. Parce que sinon, il y a ce fameux parchemin qui se forme avec ce fil tellement désagréable. Donc après, avec le temps, toute la sélection a porté sur le fait de ne plus avoir le parchemin, d'avoir des haricots sans fil. Ce qu'on a maintenant, on a des haricots qui peuvent relativement grossir, qui ne demandent plus cette cueillette quasi quotidienne pour être sûr de ne pas avoir de fil.
Mais d'ailleurs, quand on mange un haricot vert, on mange tout, c'est-à-dire ce qui deviendrait la gousse. On mange également les petites graines qu'il y a à l'intérieur, parfois on les distingue.
Voilà, et c'est exactement le mot que vous venez d'employer, c'est « mange tout ».
Mange tout.
Ce sont les haricots mange tout.
Pourtant, aujourd'hui, le haricot mange tout désigne souvent, vous savez, ce haricot un peu plat, qu'aiment beaucoup les Anglais d'ailleurs.
Voilà, avec des graines qui sont souvent visibles, mais en fait, nos haricots sans fil, on peut aussi les appeler haricots filés, haricots mange tout.
Haricots filés, haricots mange tout. Au cours du XXe siècle, le haricot vert est quand même passé du statut de légume de luxe, de légumes aristocratiques réservés à une élite, à un légume très populaire et très apprécié des Français. Tous les sondages le disent, c'est l'un des légumes préférés des Français. Que s'est-il passé ? Il y a eu une généralisation de la récolte ? Il y a eu une intensification de la production ? Il y a eu également, évidemment, les techniques de conservation.
Mais il y a eu tout, un petit peu tout à la fois. En fait, à la fin du 19e, les maraîchers franciliens sélectionnent des variétés de haricots verts nains. Donc beaucoup plus productifs et beaucoup plus précoces. Mmh. Donc ce qui fait qu'on peut avoir des haricots beaucoup plus tôt dans la saison et beaucoup plus tard dans la saison. Et ensuite, effectivement, dans les années 70, on arrive vraiment à une mécanisation généralisée de la culture, avec d'énormes moissonneuses-batteuses à haricots. J'invite les auditeurs à aller voir sur Internet. Les machines sont tout à fait impressionnantes. Donc, effectivement, on a pu industrialiser la culture, mais on a aussi industrialisé la conservation avec la pertisation et la surgélation. Ce qui fait que, en fait, on a totalement désaisonnalisé notre haricot vert et on peut quasiment toute l'année avoir un légume qui pourrait y avoir goûté, honnêtement, et je suis pas super favorable à ce genre de méthode.
Mais honnêtement, puis on connaît votre vision de l'agriculture aussi.
Voilà, ouais. Et honnêtement, c'est pas si mal. Franchement, c'est pas du tout catastrophique, les techniques d'apertisation et de surgélation. Je pense que c'est un légume qui s'y prête, entre guillemets, bien.
Il paraît qu'il y a même des variétés qui ont été spécialement sélectionnées pour faciliter la mécanisation de leur récolte.
Ah oui, c'est ce qu'on appelle le easy pick.
Le easy pick.
Ouais, c'est-à-dire.
Alors donc, qui veut dire en anglais récolte facile, quoi.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le pédoncule casse vraiment facilement, ce qui fait qu'au niveau de la batteuse, c'est beaucoup plus simple. Et surtout, les gousses sont au-dessus, au sommet, au-dessus des feuilles. Ce qui fait que pour la batteuse, le travail est nettement simplifié. Ce qui est un petit peu moins cool, c'est de se dire que ces variétés easy pick vraiment liées à l'industrie, elles sont parvenues aussi maintenant, dans une seconde vie, pour le marché des jardiniers amateurs. Bon, honnêtement, on peut se pencher vers d'autres sélections.
Il n'y a pas tellement de variétés easy pick dans les assiettes d'Amandine Chéniaud qui s'apprête à ouvrir, on l'a dit, dans le Perche, une très belle auberge de campagne. Que représente pour vous le haricot vert, Amandine, dans votre vie de grande chef ?
Moi, c'est surtout des souvenirs d'enfance quand j'étais gamine et qu'on passait des heures à équeuter les haricots verts en famille pendant tout l'été.
C'était la corvée.
Ouais, c'était la corvée. C'était le moment où on se racontait un peu nos histoires, le point sur les devoirs, qu'est-ce que ça fait, la rentrée, etc. etc.
Alors, on les équeutait des deux côtés ou d'un seul côté ? Parce qu'il y a deux écoles en la matière.
Ouais. Alors, à l'époque, je pense que ceux de ma grand-mère, qui étaient vraiment des haricots verts paysans, je parle de ça il y a quelques années, ils avaient tendance à voir ce fil, effectivement, le long de la ligne, là, et on équeutait les deux côtés pour, justement, arriver à enlever ce fil. Aujourd'hui, moi, sincèrement, j'enlève plus la petite virgule. Déjà, je trouve que c'est hyper joli. Et puis, c'est un geste en moins, c'est moins de gaspillage. Et en plus, ça montre que c'est des haricots verts qui sont pas, justement, traités de façon industrielle par des enfants en Afrique et mis dans des trucs dégueulasses
des en cellophane.
Donc voilà, ça ramène quelque chose d'un peu artisanal et je trouve que c'est plus intéressant.
Donc vous enlevez que le pédoncule d'un côté. Exactement. Et vous laissez ce que vous appelez la petite virgule, c'est-à-dire cette, ouais, cette petite pointe, cette petite plume.
Exactement, sur la fin de, sur l'autre côté du haricot vert.
Le haricot vert a été un grand totem de la nouvelle cuisine.
Ouais.
Avec Paul Bocuse et sa fameuse salade de haricots verts qui l'a fait connaître d'ailleurs en 1965. On évoquait Michel Guérard, malheureusement décédé en août dernier, qui a inventé en 1968 la fameuse salade gourmande avec ses copeaux de foie gras pour remplacer une partie de la matière grasse de la vinaigrette. Et là aussi, on était sur une école du croquant, du al dente. La nouvelle cuisine, il fallait cuire le moins possible les légumes pour préserver leur couleur, leurs vitamines, leurs nutriments. Vous, c'est quoi votre vision de la cuisson du haricot vert ?
Alors, j'aime bien qu'il soit un peu cuit quand même.
Ah, ouais. Ça, c'est encore la faute à mamie, hein.
Alors, attention, touche pas grand-mère. On touche pas aux grand-mères, attention. Non, mais aujourd'hui, je trouve qu'on a des haricots verts qui supportent bien d'aller sur un peu de cuisson. Moi, j'adore quand, vous voyez, là, le haricot vert, je vous le pique. Hein.
Allez-y.
Quand il est de cette taille-là, quand on voit les graines qui commencent à se dessiner, qu'on voit qu'il est dodu, moi, je trouve que c'est à ce moment-là qu'il est le meilleur. Alors, malheureusement, on n'en trouve pas toujours des aussi gros. Mais j'aime bien quand il est bien cuit, parce que sinon, je trouve qu'on a une mâche un peu désagréable. Quand on croque dessus, ça fait une espèce de quick.
Mmh.
Et ça ressort un peu métallique.
Le goût du haricot vert cru, c'est franchement, autant j'adore plein de haricots, plein de légumes crus.
Ouais, c'est pas terrible.
Mais le haricot vert cru, c'est hostile.
Moi, je trouve qu'on peut diminuer son hostilité en faisant comme font les Suisses, par exemple. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de le manger frais. Contrairement à nous, notre process qui est vraiment de le garder frais au maximum, uh-huh, de vraiment pas rompre ça. En fait, ils vont l'exposer pendant une journée au moins au soleil, où là, il va commencer à se déshydrater,
ça, alors,
à ramollir, à flétrir. Et en fait, au niveau de la saveur, elle est plus marquée. Je suis assez d'accord avec cette technique. Je trouve que les deux sont valables.
Vous êtes en train de dire que ce petit préchauffage au soleil, alors qu'il serait visiblement une technique pratiquée en Suisse, ça concentre en quelque sorte les sucres et le goût du haricot.
Voilà, et on est vraiment habitué, c'est la lecture de Proust que vous faites tout à l'heure, on est vraiment habitué au croquant, au frais, au juteux, etc. Mais on peut peut-être chercher autre chose.
Il y a une auditrice, Violette, qui nous écrit d'ailleurs que sa grand-mère, elle dit « Ma grand-mère paysanne limousine pauvre faisait des haricots verts conservés, séchés, salés ». Alors, peut-être que c'est aussi une technique qu'on avait en France.
Voilà, alors on avait aussi une technique qui consistait, c'est un métier à plein temps, à traverser les haricots par un fil et à les faire sécher en guirlande. Donc là, ils se déshydratent et on les réhydratait, on les consommait comme ça. Oui, effectivement. On n'est pas obligé d'être dans l'ultra frais, ultra croquant, même si là, ce que vous venez de faire, ultra frais, ultra croquant, ça marche bien.
Et c'est des tout petits, hein, ceux-là que j'ai sélectionné pour la salade. Je pense qu'on peut aussi traiter différemment des tout petits haricots verts quand ils sont tout jeunes, que la gousse elle vient juste de se former, et quand ils ont un peu plus d'ampleur, un peu plus de chair.
Racontez-nous cette très très belle salade avec effectivement des haricots verts très fins, très voire fin. Extra fins, ouais. Qui proviennent d'où ?
De la ferme du Perche, pour le coup, qui est dans la commune du futur restaurant.
Tom Rial.
Exactement.
Bonjour à lui.
Et voilà, donc là, on a des haricots qui ont été cueillis hier. Ça, c'est hyper important aussi que ce soit frais. Il ne faut pas que le haricot vert, il attende dans le frigo. Il n'aime pas ça. C'est là où il développe du fil aussi, quand il prend des coups de chaud. Et quand il reste trop longtemps dans un frigo. Donc un haricot, il faut vraiment l'acheter, le cuire. Et le déguster. Et j'aime bien quand il n'est pas passé au frigo aussi. Donc on le cuit, moi j'ai tendance à même pas le rincer parfois, dans la passoire, on le laisse comme ça, juste tempérer un petit peu, et tout de suite on l'assaisonne. Je trouve que le frigo le casse un peu.
Mais attendez, on parle d'une cuisson à l'anglaise, c'est-à-dire que vous plongez vos haricots équeutés dans une grande casserole d'eau bouillante que vous salez.
Bien salée.
Vous avez entendu Michel Guérard tout à l'heure, il préconisait effectivement un salage de l'eau très intense.
Alors là, il a encore plus marqué sa salaison puisque derrière, il les rince. Donc, il faut faire attention aussi à la façon dont on va les utiliser après. Si on les rince, si on les replonge, parce que souvent, c'est quelque chose qui se fait. On fait une première cuisson parce que là, on peut maîtriser un peu le temps de cuisson. On va les rincer pour les refroidir et arrêter cette cuisson et garder la chlorophylle. Je mets des guillemets parce qu'il y a quand même beaucoup de légendes autour de ces techniques-là. Et ensuite, ils vont être replongés au moment pour les réchauffer, pour que ce soit servi. Donc, il y a quand même beaucoup de manipulations, il y a beaucoup de rinçage. Donc, effectivement, dans ces cas-là, il faut vraiment sursaler la cuisson. Moi, j'aime bien faire une salaison un peu forte dans la cuisson, mais sans pour autant les rincer derrière.
Vous aimez les faire tiédir naturellement ?
Ouais.
Sans prendre le risque qu'ils perdent leur couleur verte ?
On peut trouver un entre-deux, on n'est pas obligé de les laisser non plus 25 minutes dans une autre cuisson. Ce qu'il faut, c'est qu'effectivement, il y ait beaucoup d'eau, que ça cuise fort, donc avoir une vraie plaque de cuisson qui soit dynamique. On ne peut pas cuire des haricots verts correctement si on a une plaque de cuisson qui n'est pas assez puissante, avec un gros volume d'eau où il y a trop de masse à chauffer. Donc il faut trouver cet équilibre-là, et ensuite, faut les goûter de toute façon, suivant comme on les aime, sachant qu'en général, quand on les sort de cuisson et qu'on les consomme, il y a toujours un petit temps où ça va continuer, il y a quand même une inertie de cuisson.
Il faut qu'ils résistent, comme les vôtres, un tout petit peu à la dent.
Ouais.
Mais en étant ensuite un peu fondant, entre les deux.
Mais ouais, voilà.
C'est ce que j'appelle moi la texture FF, ferme fondant, entre les deux.
Voilà, ça me va bien.
J'ai consulté la cuisine des légumes du grand chef, meilleur ouvrier de France, Jacques Maximin, pour essayer de trouver un temps de cuisson idéal des haricots verts dans l'eau bouillante. Alors là, j'ai pas été gâté par la réponse. On ne peut pas indiquer le temps de cuisson car il varie selon la grosseur et la fraîcheur des haricots verts, de 3 minutes pour des haricots frais cueillis à 10-12 minutes maximum. Le tout, c'est de rester à côté et de les goûter très régulièrement.
Exactement, ouais. 3 minutes, il faut vraiment qu'ils soient vraiment très 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 fins. Moi ça me choque pas, 10-12 minutes, quand on a des gros haricots verts de potager qui sont bien charnus et qu'on a envie de les manger bien fondants, là, comme un câlin, ça me choque pas du tout.
Parlez-nous de votre salade, il y a donc de l'amande torréfiée.
Ouais, Alors, plein d'amandes. Moi, j'aime beaucoup. Ce qu'on disait tout à l'heure en introduction, je suis pas fan des vinaigrettes. Moi, je suis hyper sensible à ça. Les kombucha, c'est pas du tout mon truc. Donc, pour l'assaisonner, beaucoup d'amandes. Ça va forcer un peu ce côté un peu noisette qu'on peut trouver dans le haricot. Donc, de l'amande torréfiée, des herbes du jardin. Donc là, j'ai mis basilic, chiseau, mais j'aime bien aussi avec de la coriandre, suivant les goûts, suivant les humeurs. Un petit peu d'oignon rouge.
De l'échalote ? Ah non, oignon rouge.
Ouais, et voilà, très simple.
Et des petites pêches, un peu croquantes.
Voilà. Et ce que j'aime beaucoup avec le haricot vert, effectivement, c'est la pêche. Donc, pas des pêches trop sucrées, pas des pêches jaunes, mais plutôt pêche blanche ou pêche de vigne. Là, j'ai les premières pêches de vigne qui viennent de chez Janine. J'ai été déjeuner hier et je lui ai dit que j'étais en galère de pêche. Elle m'a filé quelques pêches de son jardin. C'est des toutes petites pêches très rustiques qui ont un petit peu d'amertume et que je trouve assez intéressante avec le haricot vert.
Et donc, si acidité citron vert, vous avez dit.
Ouais.
Et quelle huile végétale?
Oui, en fait, là, l'huile d'assaisonnement, en fait, c'est l'huile qui a servi à torréfier les amandes. Donc, qui va se gorger de
ces notes
torréfiées. Et pour le coup, c'est une huile de tournesol.
Très bien.
Ça donne vraiment une sensation d'huile de noisette.
Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Absolument.
Ça marche bien aussi, haricots verts noisettes. De toute façon, tous ces oléagineux vont très bien avec.
C'est grillé et très gourmand, en effet. Une cueillette de haricots verts avec Zazie Tavitian.
On va déguster. Sur France Inter.
Villiers le Belge, Nassarnouville. Attention à la marche en descendant du train.
Zazie, vous avez donc pris le métro pour aller cueillir des haricots ?
Et oui, et pas seulement, François-Régis, en cette rentrée des classes, j'ai pris le métro, mais aussi le RER D jusqu'à la station Villiers-le-Bel-Gonesse-Arnouville dans le Val-d'Oise, et enfin le bus jusqu'à l'arrêt Fontaine-Cipierre, en pleine zone urbaine. Puis j'ai fait quelques pas au bord de la route, j'ai tourné la tête, et là j'ai vu apparaître un paysage comme une utopie qui surgissait au milieu d'une zone très bétonnée, une étendue verte et dorée avec des serres et plein de légumes. J'avais rendez-vous avec Jacques Proix, qui avec sa fille Marie a monté les Enfants du Maraîcher il y a 4 ans, une petite ferme d'un hectare et demi. Une histoire de famille.
Moi, j'ai pris derrière mon père en 91 à son décès. Elle est dans la famille depuis 1890.
Il y avait plus de maraîchers, j'imagine, autour.
Avec ça. On devait être 6 ou 7 à Gonesse.
Et aujourd'hui, vous êtes combien ?
Hein ?
Et vous êtes en bio ? C'était déjà le cas de vos grands-parents ?
Non. Quand j'ai repris avec ma fille, je dis j'arrête le conventionnel, ça me... J'en pouvais plus, toujours le rendement et tout. Et puis il faut dire qu'en conventionnel, on ne peut pas lutter parce qu'on est trop petit. En ce moment, on a plus de 30 productions différentes qui donnent. C'est plein de couleurs, il y a toutes les couleurs de toutes les légumes. Là devant nous, on a un carré de haricots, on a des carottes, on a des betteraves rouges, du céleri branche, du vert, du doré. Au loin, on voit des choux, il y a des choux verts, il y a des choux cales. Il y a du chou brocoli, il y a du chou fleur, il y a deux sortes de choux frisés, il y en a un violacé, il y en a un vert. À l'autre bout, vous voyez, là-bas, vous êtes un peu petite, mais il y a derrière les herbes, là-bas, il y a du chou rouge, il y a du chou de Bruxelles, il y a plein de choses. Hein.
Alors, vous imaginez un peu le paysage, mais la réalité ici, c'est qu'on est entre Roissy et le Bourget.
Ça
et que les avions ne cessent de passer au-dessus de nos têtes. On est aussi tout près du triangle de Gonesse, zone dont vous avez peut-être entendu parler, car elle est devenue un des symboles ces 15 dernières années de la lutte contre l'artificialisation des sols. Car c'est aussi ça la réalité des agriculteurs du Grand Paris, lutter pour sauvegarder des terres contre la construction. Jacques Proix, qui a aussi des champs de céréales en grande culture, me racontait qu'il s'est fait plusieurs fois exproprier, c'est-à-dire que ces terres ont été récupérées pour construire des zones considéré d'utilité publique.
Avec beaucoup de guillemets.
Voilà, on trouve aujourd'hui par exemple sur la terre où il faisait initialement son maraîchage et son horticulture un Leroy Merlin et un Royal Gambas. Mais revenons à nos haricots.
Royal
Gambas.
Royal Gambas.
Bon, je sais pas,
ça se trouve,
c'est délicieux Royal Gambas, bon, j'en sais rien. En tout cas, j'ai demandé à Jacques de nous montrer ses haricots.
C'est du haricot mange-tout. Vous avez le pied, les tiges, les feuilles, des tiges florales. Une fois que les fleurs ont été pollinisées, c'est autogame, c'est-à-dire que le haricot se pollinise lui-même. Il n'a pas besoin d'insectes. Après, vous avez un fruit qui se développe, qui est le haricot.
Qui a été cueilli 2 fois, là, et on va faire une troisième cueille. Parce qu'il y en a encore dessus.
Parce qu'ils ne poussent pas tous en même temps, donc vous passez plusieurs fois pour les cueillir juste à la bonne maturité.
Voilà, c'est ça. Par rapport au haricot, ce qu'on appelle l'haricot machine, qui ne grossit plus. Et que la floraison est beaucoup plus groupée et qui est récoltée en une seule fois. À l'origine, c'était pour les conserveries. C'est des haricots, ils restent fins, mais il y a la graine dedans. Tandis que nous, il y a jamais la graine dedans.
Si les gens en font de moins en moins, c'est que ça demande vraiment un travail au champ, quoi.
Ah bah c'est l'accueil.
c'est être plié du matin jusqu'au soir, quoi. Mais bon, moi, ça me gêne pas, quoi. Cueillir des haricots me gêne pas.
Tous vos légumes, et notamment vos haricots verts, ils passent jamais par un frigo?
Jamais, on n'a pas. De toute façon, c'est pas possible. Le frigo détruit tous les goûts. Puis de toute façon, ils sont récoltés la veille qu'on les vend, alors ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien.
C'est rare de trouver des haricots aussi frais.
Ah bah là, samedi, là, c'était la folie, là. Il y a des gens qui viennent pratiquement que pour ça, quoi.
Et vous, c'était quoi les recettes de famille?
Oh, simplement, cuite à l'eau avec un jus de viande, et puis c'est tout, quoi. Et puis en vinaigrette, moi, j'adore en vinaigrette.
Ouais. Ça veut dire juste blanchi, assez al dente?
Non, pas dente. Ça, c'est une très grosse erreur.
Moi, j'aime bien al dente.
Ah non, pas mou, mais pas al dente. Et il faut être à côté de la marmite. Dès que vous pouvez le couper avec le couteau sur le bord de la marmite, là, il est bon. Je vous en ferai cuire et puis vous verrez la différence.
Vous ne faites pas confiance.
Non, mais comme ça, vous aurez une référence.
Jacques Proix le dit bien, pas al dente, les légumes, effectivement, il faut les pousser un tout petit peu en cuisson. Vous nous avez rapporté une recette?
Oui, du coup, j'étais assez stressée. J'ai été hier au marché pour chercher ces haricots bien frais et j'ai fait attention à lui rendre hommage, donc à ne pas les faire al dente. Et j'ai suivi sa recette, donc vinaigrette très simple avec basilic de la ferme, également des échalotes, huile, et j'ai rajouté le vinaigre que vous nous avez fait goûter en début d'émission. Excellent. J'ai aussi suivi sa technique, c'est-à-dire les mettre dans de l'eau glacée ensuite. Et lui, il me disait aussi qu'il faisait tous les départs des légumes à froid, et qu'il fallait surtout, parce que ça brutalisait sinon les légumes, donc j'ai commencé la cuisson à froid aussi, comme il me l'avait indiqué.
Toutes les écoles de cuisson sont dans la nature. En tous les cas, cette cuisson, moi, je la trouve tout à fait idéale, parce qu'il y a un peu de résistance, mais on a quand même le fondant du haricot vert qui est concentré dans son sucre.
Ouais, complètement, et puis c'est des beaux haricots, on commence à avoir un gros volume, donc on a bien cette rondeur en bouche. Moi, je trouve ça génial, j'adore.
Vous aimez ou pas?
Moi, je trouve que ça marche très bien, et effectivement, tout est lié là à la qualité du haricot, qui est vraiment excellente. Quoi.
Ouais,
c'est vraiment très très bien.
Justine?
Ouais, il y a de la mâche, on a de quoi se mettre sous la dent. Il est sucré, et puis le basilic, ça donne un petit côté floral, je trouve, à une salade toute simple, mais délicieuse.
Beaucoup de questions de nos auditeurs et de nos auditrices, Xavier, sur le statut botanique du haricot. Est-ce un fruit ou un légume?
Alors, encore une fois, tout ce qui est issu d'une fleur et qui contient des graines, même si elles sont à peine visibles à l'œil nu.
A raison de parler de fruits.
Ce sont des fruits, oui, oui. Alors, il faut bien distinguer la botanique de la cuisine. En cuisine, on va parler de légumes à partir du moment où c'est tout au parti d'un végétal qu'on utilise pour accompagner des mets. Mais en botanique, l'organe qui est issu de la fleur et qui contient des graines ou des traces de graines, comme les bananes par exemple, sont bien des fruits.
Culinairement, un légume, botaniquement, un fruit. Parce
voilà,
qu'il n'est pas question de faire une salade de fruits avec des haricots verts, on l'a bien compris.
Voilà, et c'est ça. Et c'est là qu'on voit un petit peu toute l'imprécision de ce fameux manger 5 fruits et légumes par jour. C'est très imprécis, en fait.
Et oui, vous avez raison. Xavier et Mathias nous parlent dans un instant de haricots verts étonnants et pas tout à fait verts. Et Amandine nous prépare en direct une recette là aussi très surprenante, appliquée aux haricots verts, une technique japonaise. On va être surpris, on va déguster, on va se régaler. Léon Bridges, Peaceful Place sur la playlist de France Inter. Le haricot vert, un légume bien de saison qu'on explore avec notre pote du potager Xavier Mathias et la chef cuisinière Amandine Chéniaud. Zazie Tavitsian et Justine Knapp sont avec nous.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Tous les matins, des centaines de Kenyans quittent leur bidonville. Magnet et Nancy n'ont même pas de quoi se payer les transports en commun. Alors, pour aller travailler, les deux amis marchent pendant 2 heures.
Oui, ils vont tous travailler pour les haricots.
Ici, on emballe des haricots verts qui seront vendus sur les rayons de nos supermarchés, dans ces barquettes noires qu'on trouve un peu partout en France. Comme Magnet, 70 ouvrières s'activent pour qu'ils quittent le Kenya le plus vite possible. Un par un, elles trient les haricots verts, sélectionnent les meilleurs et leur coupent les extrémités. Avec son bonnet orange, Nancy, elle, est surveillante. Elle vérifie que la cadence ne faiblit pas.
Un extrait de complément d'enquête diffusé sur France 2 dévoilant les conditions sociales des employés qui travaillent dans la culture intensive du haricot vert au Kenya. C'est l'une des faces noires de ce haricot vert venu de loin et à contre-saison. Car le haricot vert, Xavier Mathias, n'est pas très très vert, en fait, en termes d'écologie, transport en avion, emballage plastique, voilà, Amandine Chéniaud l'évoquait.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est une honte absolue. En fait, hein, tout simplement, il existe des producteurs, j'en profite pour saluer Tom,
Tom Rial d'Emperche.
Voilà, qui produisent réellement des haricots verts, ou comme ce monsieur qu'on vient d'entendre. Alors après, c'est à nous de choisir. Qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut des haricots verts désaisonnalisés, pas chers ? Et on sait qu'ils ont un coût environnemental et social absolument colossal. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Encore une fois, c'est un légume, entre guillemets, tout ce que je disais tout à l'heure, un légume luxueux. Je dirais pas inutile, rien n'est jamais inutile, mais il n'est pas indispensable à une alimentation saine et équilibrée. Donc il est là pour être un plaisir, être un plus. Alors si c'est pour distribuer la souffrance et la peine à l'autre bout du globe, c'est pas la peine, hein. Vraiment, hein, je crois pas.
D'autant que cette culture utilise aussi des produits phytosanitaires et des pesticides dont 70% sont déjà interdits par l'Union européenne.
Bien sûr.
Et les lots, alors certes, sont contrôlés à l'entrée de l'Union européenne, mais seulement 10% des exportations sont contrôlées. Ça veut dire que de mauvais produits passent sans doute les mailles du filet.
Bien sûr. Mais alors, malheureusement, c'est le cas avec de nombreux légumes. Hein. Les haricots verts ne font pas exception. C'est le cas aussi avec beaucoup de fleurs coupées. Hein. Donc,
la fameuse rose de la Saint-Valentin.
Voilà, on parle des scandales du haricot vert du Kenya. On pourrait aussi parler du scandale des roses du Kenya et des fermes à roses là-bas. Effectivement, ça nous pose une vraie question à nous, consommateurs. Et là, ce que je mange là, à midi, est vraiment un régal. C'est vraiment très très bon. Et j'ai pas besoin d'en manger tous les jours, en fait. Hein. C'est vraiment, pour moi, un plat d'exception qui doit rester un plat d'exception. À nous d'y porter l'attention nécessaire.
Il y a également des haricots verts sous votre micro qui viennent de pas très loin pour le coup. Hein.
Oui.
Ils sont venus avec vous, ils viennent de votre
ils
potager.
Ils viennent de Chidigny, voilà.
Voilà. Et ils ne sont pas toujours verts, c'est ça qui est intriguant. Il y en a notamment un clair jaune,
ouais.
Et on va dire couleur vert anis, oui. Et un autre qui est carrément noir pourpre.
Ah oui, qui est vraiment pourpre. Alors celui-là, j'aime beaucoup, donc il y a toutes les variétés pourpres, style reine des pourpres, etc. Malheureusement, leur couleur disparaît à la cuisson, à moins que vous ayez un truc pour la conserver. Moi, j'y arrive pas. Ils ont un énorme avantage pour le cueilleur, c'est qu'on les voit. Voilà, sur le feuillage vert, ils ressortent, on ne voit que...
Ils font des appels de phare dans
voilà,
le potager.
C'est ça. Et on ne les loupe pas.
Parce que le feuillage est vert, voilà. La gousse est noire.
Ah oui, et donc, c'est ça, pourpre, violacé très foncé. Et donc, on ne peut pas les manquer. Après, il y en a aussi, c'est pareil, qu'on peut difficilement manquer. Ils sont souvent un petit peu plus tardifs. Ce sont les haricots beurre, qui ont un goût légèrement différent, avec une texture que je trouve en général plus fondante. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Amandine, vous les aimez. Alors, les haricots beurre, on parle de ce petit haricot que j'évoquais, clair, jaune, hein.
Qui est quand même très charnu. Pour le coup,
oui.
Pour le coup, on est vraiment sur des beaux calibres. Et effectivement, alors j'en ai jamais vu industrialisé. Alors je ne sais pas si ça se fait pas ou quoi, mais c'est vrai que pour le coup, moi, c'est un souvenir d'enfance, le haricot beurre, avec ces haricots qu'on ramassait vraiment gros, vraiment formés. Et t'es juste revenu à la poêle, et ça c'est du câlin dans la poêle.
Et un mot aussi de ce haricot plat, à ne pas confondre avec ce qu'on appelle aussi mange-tout, qu'on voit presque dont on voit le parchemin en transparence. Là on parle du haricot plat qu'on appelle aussi haricot provençal parce qu'il intervient dans une certaine soupe au pistou.
Voilà, on a aussi le haricot d'Espagne qui est cultivé comme plante ornementale, et on oublie presque que le haricot se mange. Alors par contre, attention, il a un parchemin lui, ce qui fait qu'il faut supprimer la partie dure. Mais par contre, au mètre carré cultivé, vu la taille des sujets, ça reste quand même diablement intéressant. C'est très très bon, et on peut attendre que le grain soit un petit peu formé à l'intérieur.
Pour reparler, chers Zazie, des haricots de Jacques Proie, de Gonesse,
oui.
À qui vous avez rendu visite. On les trouve notamment à Paris, ces haricots.
Oui, on les trouve tous les samedis matins au marché des Batignolles, et on les trouve aussi sur la ferme de Gonesse, où les habitants du coin peuvent venir à la ferme le samedi matin pour des légumes super frais, avec un prix pour les habitants de Gonesse également.
En vente directe, très bonne nouvelle. Quoi dans nos verres pour le haricot vert? Réponse avec Justine Knapp.
On va déguster sur France Inter.
Justine Knapp, pour accompagner les haricots verts, vous nous avez apporté votre coup de cœur.
Oui, alors vous êtes-vous déjà dit, j'aime ce vin, mais je ne suis pas sûre de savoir exactement pourquoi. Alors peut-être que des détails nous échappent, qu'il n'est pas toujours facile de cartographier son propre goût, ou peut-être que des raisons plus profondes entrent en jeu, des raisons inconscientes. Alors ce vin qui est dans vos verres, je l'ai choisi en toute conscience pour commencer, parce qu'il est capable de répondre à la saveur herbacée des haricots verts, qui a tendance à rendre le vin plus sévère qu'il n'est. C'est un rosé de la vigneronne Caroline Le Dédenté, domaine Grain par Grain, dans le Bugey, entre le Jura et la Savoie. Un rosé de Gamay, fait avec strictement rien d'autre que du raisin, à 15 euros. Couleur cuivrée.
Oui.
On a plus l'habitude de croiser des roses pâles. Tout un arsenal d'additifs peut même assurer la nuance, parce que c'est la mode de consommation.
Un peu vermeil.
Exactement. En fait, la France, c'est le premier pays producteur de rosé dans le monde, donc c'est un marché lucratif. Et là, pour une comparaison grand écart, on est loin des rosés aux arômes caricaturaux, étriqués, agrafés par les artifices et fanés dans l'année. Ce rosé, il est traité comme les autres vins du domaine, un an d'élevage, un an de bouteille. Voilà d'autres raisons conscientes qui me font aimer ce vin.
Millésime 2022, c'est ça ?
Exactement. Et on a une impression de saveur prégnante, presque l'effet d'une succion qui nous met sur la piste de la saveur umami. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais totalement. Mmh. Avec une longueur en bouche et cette espèce de salinité vibrante qui anime la bouche.
Et au nez, il a aussi, moi je trouve quelque chose d'assez, enfin très, très agréable, très floral. Enfin, on a vraiment envie de le boire.
Quoi. Oui, un peu fraise des bois, même au nez. Et c'est un rosé qui rappelle ce qu'est un rosé, donc du raisin rouge dont la peau tannique a été brièvement en contact avec le jus blanc. Et on retrouve cet tanin délicat dans le contour du vin. Ce n'est pas juste un blanc coloré. Et puis, il y a autre chose. Alors, quelque chose d'évident dans son incorporation. Alors, certes, il est peu alcoolisé, léger, comme un tissu de soie qu'on soulèverait. Mais c'est au-delà de ça. Et j'en ai parlé à Gabriel Lepouzé.
Ah, neurobiologiste à l'Institut Pasteur. On connaît bien Gabriel. On a d'ailleurs fait une série de podcasts ensemble sur les saveurs et la science. Il est spécialisé dans la perception sensorielle.
Oui. Et il m'a expliqué que cette forme de confort, de sérénité que je ressentais en buvant ce vin, c'était sûrement le signe que mon système digestif l'accueillait volontiers.
Intéressant.
Gabriel Lepouzé et son équipe, ils travaillent notamment sur la perception des états internes du corps, l'interoception. Et au sein de ce champ de recherche qui a plus d'un siècle, on a fait récemment des découvertes vertigineuses. Notre estomac et notre intestin possèdent à leur surface des capteurs gustatifs et des récepteurs olfactifs, exactement comme le nez et la bouche, à la différence près que les sensations qui naissent dans notre système digestif n'accèdent pas à notre conscience.
C'est intéressant ça, hein. C'est franchement de voir qu'un vin peut être ami avec son microbiote.
Exactement. Et après, ben, est-ce qu'on peut savoir comment est perçu un vin par le système digestif ? Ben, Gabriel Lepouzet m'a conseillé une chose, c'est d'observer mon état dans les minutes qui suivent la dégustation. Parce que le système digestif, il envoie ses messages au cerveau et le cerveau, il traduit sous forme d'état émotionnel ou de réaction physiologique. On se sent bien, on entre en appétit, on salive agréablement ou au contraire, on ressent un léger dégoût, la faim est coupée, etc. Il y a des vins, par exemple, qu'on décrit spontanément comme digestes et d'autres qui peuvent être sans reproche en bouche, mais on remarque qu'on n'a pas envie de finir le verre. Alors pourquoi ? Eh bien, quand on boit, quand on mange, notre corps il répond à une question simple, héritée de notre évolution. Est-ce que c'est bon pour moi, pour mon fonctionnement ? Et pour savoir, le corps il se sert du sens du goût par la bouche, par le nez, et maintenant on le sait, jusque dans le système digestif. Le goût nous fait la morale. Il nous dit ce qui est bon ou mauvais pour nous via le plaisir, hors dysfonctionnement. Et je vous recommande à ce sujet un documentaire passionnant qui s'appelle « Les pouvoirs secrets du goût » d'Anna Maria Talas, qui est diffusé en ce moment sur Arte. Alors, parler de bon vin pour l'organisme, c'est un sujet sensible, parce qu'il s'agit d'alcool, néfaste de manière chronique ou en excès.
Et à consommer toujours avec modération.
Exactement. Mais on peut s'interroger. On a l'habitude d'évaluer la valeur d'un vin uniquement en lui faisant passer le test de la bouche, sans se préoccuper de la suite de son trajet et de sa nature plus ou moins agressive pour le corps. Or, certains vins, comme celui-ci qu'on est en train de boire, sont faits de telle sorte qu'ils arrivent pleinement à nous satisfaire, à nous faire plaisir jusqu'au plus profond de nous-mêmes. Et notre inconscient le sait.
C'est un terrain de connaissance absolument passionnant. On va consacrer prochainement une émission à ces nouveaux chemins de la dégustation du vin, grâce notamment à Gabriel Lepouzet, ce neurobiologiste de grand talent que vous évoquez. Merci Justine. Vous nous rappelez juste les références de cette très belle cuvée rosée du Bugey.
C'est Domaine Grain par Grain, le rosé, le vin de la tribu à 15 euros.
Et ça coûte quoi ?
Ça coûte 15 euros.
15 euros, pardon, j'avais pas entendu le prix. Bah, ça reste un vin assez raisonnable. Alors là aussi, avec des pincettes, 15 euros, on sait que c'est un prix, évidemment. Mais compte tenu du travail qu'il demande, ça reste un juste prix.
Tout à fait.
Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, chère Amandine ? Avec le très beau rosé du Bugey que nous a apporté Justine.
Eh bien, je suis en train de faire une tempura de haricots verts.
Vous avez enfilé votre micro-casque. Vous êtes face à la plaque de cuisson qu'on va déguster. Et là, il y a une belle casserole avec de l'huile végétale, laquelle ?
Voilà, c'est une huile de cuisson, une huile de friture classique.
Définition de tempura ?
Alors, c'est une petite. Alors là, c'est une tempura pas forcément très dans les règles, on va dire. Mais voilà, c'est une friture légère qu'on va venir tremper très rapidement et avec un passage en friture très bref.
Comment vous composez votre appareil à tempura à beignet japonais ?
Alors là, c'est vraiment recette maison. Il y a 100 g de farine, 50 g de fécule. Un petit peu d'eau.
Fécule de quoi ?
Pommes fécule de terre ? Fécule de maïs.
Fécule de maïs ?
Ouais, maïzena. Fécule de maïs et puis un petit peu de baking powder.
Vous avez, alors soyons d'accord, vos haricots verts au départ sont crus.
Alors je les ai cuits un petit peu.
Très cuits.
Ouais. Justement pour éviter ce qu'on disait tout à l'heure sur les côtés métalliques d'haricots verts mal cuits.
Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Racontez-nous, là, ce que vous êtes en train de faire, c'est superbe comme geste.
Alors ça demande un petit peu de patience parce qu'il faut les prendre un par un. Donc justement, je les prends par la virgule là, que j'ai gardée, on en parlait tout à l'heure, quand j'ai préparé mes haricots verts. Et puis je les trempe un par un donc, dans la tempura avant de les déposer dans mon huile de friture.
Combien de temps la cuisson dans ce bain de friture ?
C'est vraiment quelques minutes.
Oh, qu'est-ce que c'est beau !
Ouais. Et alors ça, pour l'apéro, c'est génial. Ou quand vous avez des enfants un petit peu capricieux qui n'aiment pas manger les légumes verts, c'est génial.
Ce qui est génial, c'est que ça n'altère en rien le goût du haricot. Ouais. Quoi. On l'a vraiment hyper présent.
Il y a juste cette petite carapace croustillante.
Un peu régressive.
C'est très délicat.
Mais au contraire, ça fait même, je trouve, on sent le goût de façon presque exacerbée.
Oui, ça vient, l'enrobage vient l'assaisonner. Oui.
C'est excellent.
Incroyable.
Ça donne un peu de texture, effectivement, et ça prend plus de place, je pense, aussi dans la bouche, avec du coup cet amidon qui reste plus présent. Donc on a...
Régal.
Ouais, c'est chouette.
On finit avec une dernière question. Elle est peut-être pour vous, Amandine. Question d'auditeur ou d'auditrice.
Alors là, il y a beaucoup de questions. On me demande sur les haricots verts cuits à la vapeur.
Voilà. Ah, haricots verts cuits à la vapeur, possible ou pas ?
Ah, complètement, ouais. Ouais, complètement.
D'accord. Vous n'êtes pas contre. C'est pas uniquement la cuisson à l'anglaise.
Ah non, pas du tout. Non, je suis à fond pour ceux qui sont les adeptes de la cuisson vapeur, qui savent s'en servir, qui maîtrisent. Et... Oui, il n'y a pas de souci.
Et pour Xavier, est-ce qu'un haricot, on nous pose beaucoup la question, qui a des fils, est-ce que c'est une question de fraîcheur, de maturité, de variété.
Alors, souvent, c'est variétal. Puisque maintenant, on a des haricots qui n'ont plus de fil, donc ça peut être variétal, ou ça peut être aussi d'avoir récolté trop tard des variétés de haricots qui peuvent présenter quelques fils. Si on attend trop, là, ils vont être durs.
Merci beaucoup Xavier et Amandine pour cette belle émission autour du haricot. On vous propose cette année une série de masterclass consacrée aux grandes signatures de la gastronomie. La prochaine sera diffusée le dimanche 22 septembre prochain à 11h, l'horaire habituel dont on va déguster avec le chef Jean-François Piège. Si vous voulez assister à l'enregistrement de cette masterclass, ça se passe le jeudi 19 septembre à 11h à la Maison de la Radio, et pour y participer, envoyez-nous un mail à onvadégustatradiofrance.com car les places sont limitées et on vous recontactera dimanche prochain, plein feu, sur le dessert d'enfance par excellence, le riz au lait.